l'application ou allez sur le site RCI pour rester totalement informé. RCI, c'est aussi le digital. RCI, c'est la vie. 3000 euros à gagner.
Et puis je regarde près de la maison paternelle. La maison paternelle est fermée. J'ai vu un chat blanc qui passe.
Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu un chat blanc. Je me suis dit bonjour, je vois aujourd'hui. 3000 euros cash.
Hey, RCI. Bonjour Rachel.
Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
À la une ce matin, cette adolescente de 15 ans mise en examen pour le meurtre de Matisse.
Matisse, c'est ce jeune poignardé à mort à Châteauroux. Son père s'exprime en exclusivité sur RTL. Gérard Depardieu, jugé en octobre à Paris, l'acteur est accusé d'agression sexuelle. 70, 80, 90, les limitations de vitesse changent 17 fois sur 100 km de route. C'est le résultat d'une enquête Coyote pour RTL. En Géorgie, un projet de loi met en péril l'adhésion du pays à l'Union européenne. 20 000 manifestants dans les rues hier. Et puis, on connaît ce matin les nouveaux entrants au Larousse avec deux chanteuses et pas des moindres.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec un vent d'optimisme qui souffle sur l'EPR de Flamanville.
Ah oui, mais alors, on va y aller mollo quand même, hein, sur l'optimisme.
À tout à l'heure, après le journal.
RTL Matin.
Il vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Le principal suspect du meurtre de Matisse mis en examen hier soir.
Il s'agit d'un jeune Afghan de 15 ans en situation régulière sur le sol français. Christian Panvert, il est donc soupçonné d'avoir poignardé mortellement Matisse. C'était samedi à Châteauroux.
Oui, l'adolescent de 15 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Sa mère, présentée à ses côtés devant le juge, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. La procureure de la République de Bourges a précisé qu'elle avait asséné des gifles à la victime alors que Matisse était à terre. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Selon le parquet de Bourges, samedi après-midi, les deux adolescents se trouvaient ensemble avec d'autres jeunes dans le quartier Saint-Denis à Châteauroux. Le petit groupe aurait organisé une battle de rap. La suite n'est pas très clair. Une bagarre a éclaté après des propos tenus par Matisse que l'entourage de l'agresseur aurait jugé offensant. Le jeune Afghan de 15 ans a poignardé à 4 reprises Matisse qui se trouvait à l'arrière d'une voiture. Il a été interpellé près des lieux de la RICS. Connu des services de police, il a déjà été visé par 2 procédures. Il avait été mis en examen le 22 avril dernier pour vol aggravé avec violence.
Les précisions de Christian Panvert à Châteauroux pour RTL. Christian qui a pu recueillir en exclusivité le témoignage du père de Matisse, document RTL qu'on écoutera dans le journal de 7h30. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain à Paris pour agression sexuelle. L'acteur convoqué devant le tribunal correctionnel suite à une garde à vue qui a duré une dizaine d'heures hier. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement 2 femmes en 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts. L'affaire Gérard Depardieu, décryptage dans Jour J, le podcast de Flavie Flamand. Il est disponible sur l'application RTL.
On en parle aussi avec notre invité à 6h15, Raphaël Baquet, journaliste au Monde et qui a signé un livre sorti il y a quelques jours, Gérard Depardieu, une affaire très française. On en parlera avec elle. Si vous nous écoutez en voiture, vous avez sans doute déjà été confronté à ce problème, celui des limitations de vitesse qui changent d'un kilomètre sur l'autre.
Il suffit d'une inattention, d'un panneau manqué et hop, le PV. Une infraction d'autant plus vite arrivée qu'en moyenne, sur 100 km de route nationale ou départementale, les limitations de vitesse changent près de 20 fois. C'est le résultat d'une enquête de l'application Coyote pour RTL que nous explique Stéphane Curtelin, directeur produit et marketing de Coyote.
Il y a 17 changements de vitesse en moyenne tous les 100 km sur des zones périurbaines, sur des nationales, des départementales. Et quand on sait que 75% des Français utilisent leur voiture au quotidien, ou encore que 65% des Français habitent dans ces zones, justement périurbaines, ça veut dire qu'on est majoritairement très exposé à ces multiples changements de vitesse.
Alors, vous faites une moyenne nationale, mais vous pointez aussi des endroits où ça dépasse alors largement cette moyenne.
Par exemple, en Ile-de-France, cette fois-ci, toujours sur 100 km, ça monte à 34 changements de vitesse. Et on a même des tronçons autour de Versailles. Sur moins de 30 km, on est même à 18 changements.
Propos recueillis par Christophe Bourroux, spécialiste auto de RTL. Cette information pratique pour les automobilistes franciliens, la portion de l'A13 située entre le boulevard périphérique parisien Saint-Martin et la 86 rouvrira progressivement à partir du 11 mai, mais uniquement dans le sens province-Paris. Mais alors pourquoi la 13 à l'ouest de Paris est-elle fermée depuis déjà 2 semaines? Des analyses mettent en cause des travaux menés juste à côté pour construire un parking VIP. On vous explique tout dans le journal de 8h sur RTL.
RTL qui s'intéresse aussi ce matin au bilan carbone de vos paiements.
Avec cette question, qu'est-ce qui pollue le moins entre la carte bleue et le liquide? Alors selon vous, Jérôme, Caroline, Tom?
La carte bleue.
Carte bleue, oui.
Alors carte bleue, ben, tout le monde.
Liquide.
Liquide pour Caroline,
oui.
Bon, bah, vous m'arrangez parce que en effet c'est pas le liquide.
Ah.
Les autres avaient tout bon, mais rassurez-vous Caroline, vous
n'êtes pas. Elle avait prévu de dire qu'on s'était trompé.
Vous n'êtes pas la seule à vous être trompée puisque selon une étude réalisée par la société spécialiste des bilans carbone Greenly, 40% des Français pensent comme vous Caroline que c'est le cash qui a le moins d'impact
sur le
climat. Pas
de machine, donc pas de pollution, je me dis.
Eh bien Virginie Garin va tout nous expliquer parce qu'en fait c'est tout l'inverse Virginie.
Oui, car pour fabriquer des billets ou des pièces, il faut beaucoup d'énergie pour les transporter aussi en fourgon blindé et pour faire fonctionner 24 heures sur 24 les distributeurs automatiques. Chaque paiement en espèces génère 4,6 grammes de CO2. Payer 20 fois en espèces pollue autant que faire 1 km en voiture. En revanche, si vous réglez par carte bancaire ou avec votre téléphone dans le magasin, vous polluez 3 fois moins. Alors, il y a quand même le coût de la fabrication de la carte et des terminaux de paiement. En fait, le plus économe pour le climat et de payer sur Internet. Vous émettez 20 fois moins de carbone. Il faut juste l'énergie nécessaire pour transférer les données entre votre banque et celle du commerçant. Après, il faut tenir compte de la façon dont l'objet que vous achetez va être transporté par vous à pied depuis le magasin ou livré à domicile par un gros camion. Mais si on regarde uniquement le bilan carbone du paiement, eh bien il faut retenir que c'est le cash qui pollue le plus.
Et précision de Virginie Garin pour RTL. RTL qui vous dévoile ce matin les résultats de notre nouveau sondage Toluna Harris Interactive sur les élections européennes. Les intentions de vote des Français sont stables avec toujours le Rassemblement National largement en tête à 31% devant la majorité présidentielle qui totalise 16% des intentions de vote. Jordan Bardella, Valérie Ayé, les 5 autres principales têtes de liste aux élections européennes seront réunies pour la première fois ce dimanche. Premier grand débat et ça se passe dans le grand jury exceptionnel en direct sur RTL Paris Première avec Le Figaro, M6 et LCP.
Près de 20 000 manifestants pro-européens rassemblés hier en Géorgie.
Mobilisés dans la capitale Tbilissi pour dire non à un projet de loi sur l'influence étrangère. Projet de loi largement inspiré d'une loi russe et jugé liberticide par ses opposants. Gauthier de Lombugard, l'Union européenne a prévenu, son adoption mettrait en péril l'adhésion de la Géorgie.
Oui, les drapeaux européens et géorgiens sont brandis dans la foule. L'ode à la joie, l'hymne de l'Union européenne, résonne sur la place du Parlement. Les banderoles disent non à la loi russe, en référence à un texte similaire adopté il y a 10 ans par le Kremlin pour museler l'opposition. Si cette loi est votée, les ONG et les médias recevant plus de 20% de financement étranger devront s'enregistrer comme organisation défendant les intérêts d'une puissance étrangère. Gigi, 20 ans, étudie à l'université de Tbilissi.
Mes amis et moi, on se bat contre cette loi, car c'est la même qu'en Russie. Ils veulent nous couper de l'Occident.
Les opposants dénoncent le virage pro-russe pris par le gouvernement et son parti majoritaire Rêve géorgien, dirigé par un oligarque proche de Moscou. Salomé Samadichvili est une députée du parti d'opposition Lelo.
La Russie ne parvient pas à l'emporter en Ukraine. Alors la Géorgie apparaît comme la clé pour étendre l'influence de Poutine dans la région. Le Kremlin parle directement au gouvernement, lui demande de modifier sa politique étrangère. Si cette loi passe, c'est la fin de la démocratie et la fin de notre avenir européen.
Le parti au pouvoir a tenté de répondre dans la rue hier. Des milliers de partisans ont défilé dans la capitale.
Gauthier de Lombugard du service international de RTL.
C'est la tradition, Rachel, hein, comme chaque année, de nouveaux mots et de nouvelles personnalités vont entrer au Larousse.
Oui, dans la nouvelle édition du Petit Larousse illustré qui paraîtra le 22 mai prochain. Écologie, nouvelles technologies, sport et chansons, le dictionnaire touche à tout avec ses nouveaux entrants, Bernalu.
Méga bassine et cyberattaque. Le Larousse est plus que jamais le reflet de l'époque, tout en évitant d'être disruptif, même s'il laisse entrer le platisme, cher aux complotistes persuadés que la Terre est plate. À sa décharge, le dictionnaire préféré des Français admet également l'éco-geste, protecteur de notre environnement, et que pratique en se déplaçant le trottinettiste, adepte bien sûr de la trottinette. Côté activité physique, vous pouvez devenir badiste, joueur de badminton. Mais c'est du côté des nouvelles personnalités que le Larousse fait fort cette année. Elle Ils sont plus de 40. Le footballeur Antoine Griezmann rejoint Mbappé. Le cinéma affiche un casting à faire pâlir la croisette. Omar Sy, Cate Blanchett, Virginie Efira. Les pages de Larousse accueillent également Beyoncé et, sans contrefaçon, Mylène Farmer.
Bernard l'a eu, monsieur livre de RTL, et on s'étonne hein, tout de même que Mylène Farmer n'ait pas fait son entrée auparavant.
Oui, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Les courses à Fontainebleau, départ 13h55, c'est
et
précis.
Oui, et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 4, le 15, le 12, le 5, le 13, le 3, le 10, et l'outsider de RTL, le 5, Super Alex.
Et Super Rachel revient à 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci beaucoup. Et Super Caro va nous donner les messages des auditeurs. On reçoit beaucoup de photos de chats. Hein, ce
oui,
matin,
on
sur
embrasse
Facebook.
Stéphane à Mulhouse qui a 9 degrés, qui nous poste une photo de chaton. Et on embrasse aussi Valérie et Audrey qui lui souhaitent une belle journée également, tout en photo de chat. Il y a Michel qui est à Genlis, lui sous un beau ciel étoilé et avec 10 degrés. En ce moment, il nous envoie, lui, une photo de sa production. Je le cite, « Croissant sur farine d'épeautre sur levain lactique ». Alors, beaucoup de mots que je résumerai juste par « Waouh, ça donne envie ».
On a faim.
On a faim.
RTL Matin, le surf de l'info.
Cyprien Sini, vous surfez avec un vent d'optimisme qui souffle sur l'EPR de Flamanville.
Mais oui, puisque l'info que nous révélait Virginie Garin il y a une dizaine de jours se confirme.
L'EPR devrait démarrer cet été.
Eh oui, l'EPR, vous savez, c'est ça là.
C'est un réacteur nucléaire qui est plus moderne, plus sécurisé, plus automatisé, donc il produit plus.
Voilà, la Rolls-Royce de la centrale nucléaire. Après, on nous dit que ça sera prêt cet été, mais il y a 3 ans, on nous annonçait déjà...
EDF devrait pouvoir respecter son calendrier concernant le réacteur EPR de Flamanville dans la Manche. Démarrage du réacteur fin 2022.
Wouhou ! Yeah ! Fin 2022 ! Sauf qu'en fait, fin 2022...
Nous avons donc les réparations donc des soudures du circuit secondaire principal qui sont en course.
Bah ouais, on était en pleine soudure encore. Et surtout, depuis le départ... Bah c'est un sketch, l'EPR. 2007.
EDF démarre la construction de l'EPR de Flamanville. Il devrait être fini en 2012.
Voilà, prêt en 2012. Coût des travaux, 3,3 milliards d'euros. En 2009, le président Sarkozy va sur le chantier.
Le chantier de Flamanville avance dans de bonnes conditions et donne toutes les assurances d'aboutir dans les délais.
C'est la grosse, grosse confiance. Hein. Bon, niveau tarif...
C'est un chantier de 4 milliards.
4 milliards. 4 milliards. On vient de réactualiser le montant et on l'estime à 4 milliards.
Ouais, bon, ça a pris 1 milliard, quoi. Mais ça sera bon. Et donc, en 2012, inauguration. Ah ben non.
93% des travaux de génie civil, c'est-à-dire du gros œuvre, sont réalisés. Et le calendrier, maintenant, d'une ouverture en 2016 sera tenu.
Voilà, hein, on est plus sur du 2016, en fait. Bon, et au niveau des tarifs, on est comment ?
L'EPR de Flamanville serait-il un gouffre financier ? En tout cas, la facture s'élève maintenant à 8,5 milliards d'euros.
Ah oui, quand même. Bon, on est en 2016, alors. Donc là, inauguration ? Ah bah non.
Nous allons commencer les essais d'ensemble avant la fin mars 2017 et ensuite nous avons encore, vous le voyez, 1 an et demi avant de ce qu'on appelle charger le combustible, démarrer le réacteur au quatrième trimestre 2018.
Ouais, donc au quatrième trimestre 2018, ça sera bon. Inauguration.
Un problème de soudure.
Ah bah non, toujours pas. Et sinon, niveau tarif, on en est comment là ?
EDF annonce 1,5 milliard d'euros supplémentaires.
Wow, 1 milliard de plus ou de moins, hein. Plus de 12 ans plus tard, donc 19 milliards au lieu des 3 de départ. Et le pire, c'est que si par miracle, il ouvre cet été, le PR, eh ben...
Il va falloir qu'il s'arrête l'an prochain, 5 mois pour changer le couvercle de la cuve en acier défectueux.
Eh oui. Comme quoi, le génie français a quand même parfois quelques limites. Hein.
Pardon, pardon. Merci beaucoup Cyprien Sini, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
EPR pour réacteur pressurisé européen, hein, on le rappelle. Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle. On va en parler avec la journaliste Raphaël Baquet qui vient de sortir un livre enquête sur Depardieu. Elle est notre invitée, il est 6h13.
RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Au livre de poche, l'heure des femmes d'Adèle Bréau. Une fresque romanesque qui explore la destinée des femmes des années 60 à nos jours à travers la vie de 4 héroïnes, dont celle de Ménie Grégoire.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Tout à l'heure, dans l'heure du crime, la mort pas si naturelle de Jean-Paul Zawadzki. Derrière le décès de ce militaire de carrière, sa veuve et son amant, le médecin de famille. Du poison et beaucoup de mensonges. Qui a poussé l'autre à commettre le pire ? L'affaire Zawadzki, l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20 euros jusqu'à 30 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RTL Matin, Jérôme Florent.
Avant de retrouver notre invité, coup d'œil au journal de 6h30 où on parlera des mesures, de ces mesures drastiques pour réduire le temps d'écran de nos enfants. Avec ce rapport remis ce matin au gouvernement, rapport qui préconise d'interdire les écrans au moins de 3 ans, pas de téléphone portable aussi avant l'âge de 11 ans. À suivre dans le journal, reportage dans une classe de seconde à Épinay-sur-Seine où un professeur a réussi à faire baisser le temps d'écran.
Les élèves qui ont le moins de temps d'écran sont ceux qui ont eu les félicitations. Et les élèves qui ont le plus de temps d'écran sont ceux qui sont soit en difficulté scolaire ou soit globalement en décrochage scolaire.
Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Bonjour Raphaël Baquet.
Bonjour.
Grand reporter au Monde, auteur avec Samuel Blumenfeld d'une récente enquête fouillée sur Gérard Depardieu, une affaire très française parue chez Albin Michel. L'acteur sera jugé en octobre pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. Il a passé 10 heures hier en garde à vue. Il est déjà mis en examen pour viol, je le rappelle. Question, qui soutient encore Gérard Depardieu aujourd'hui dans l'industrie du cinéma?
Ce sont surtout ses proches, hein, sa famille, les femmes qui ont vécu avec lui, qui sont souvent des actrices elles-mêmes. Mmh. Et puis probablement un certain nombre de gens du milieu du cinéma, mais ils ne le font plus publiquement. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que ceux qui avaient signé la pétition en sa faveur il y a encore quelques mois, aujourd'hui se font beaucoup plus discrets.
Ce monde du cinéma, il a longtemps fermé les yeux sur les agissements de Gérard Depardieu. On connaissait son comportement.
Oui, mais parce qu'on l'admirait d'une part, et parce qu'aussi il était une sorte de parrain du cinéma français. C'est-à-dire que sur son nom, on montait des projets, y compris de très beaux projets. Parce qu'il avait tourné dans des chefs-d'œuvre, eh bien, on lui pardonnait beaucoup de choses. Et ce comportement qui, aujourd'hui, est inadmissible, hein, ça fait très longtemps qu'il existe, et ça fait très longtemps que le milieu du cinéma ferme les yeux, ou même en rit. On a longtemps euphémisé le comportement de Gérard Depardieu. On disait qu'il était rablaisien, on disait qu'il était drôle, transgressif. On ne voyait pas, en fait, les femmes auquel qu'il agressait. Et elles, on ne les prenait jamais en compte. Aujourd'hui, c'est différent et ça a changé.
Rabelaisien, dites-vous, Depardieu, il a incarné nos grandes figures, Rodin, Danton, Cyrano, Obélix aussi. C'est pour ça que vous dites que c'est une affaire très française, c'est le titre de votre livre.
Oui, d'abord, il est dans la mémoire de tous les Français, dans plusieurs générations, parce qu'il a effectivement incarné des rôles extraordinairement symboliques, hein, aussi bien Danton, le héros de la Révolution, que Cyrano ou Obélix, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'il a eu une difficulté, toute la classe politique et tous les décideurs français sont montés au créneau pour le sauver. Parce que c'est pas la première fois, à vrai dire. Il avait déjà eu un problème en 91 lorsqu'il était en lice pour l'Oscar. Et déjà, à l'époque, il avait été accusé parce qu'une interview des années 70 était remontée à la surface où il s'était vanté d'avoir participé à des viols collectifs. Et déjà, à l'époque, tous les ministres en vue de la République, de droite comme de gauche d'ailleurs, étaient montés au créneau pour les défendre, exactement comme Emmanuel Macron l'a fait récemment. Et puis c'est aussi l'acteur français le plus connu à l'étranger. Donc il représente une part de notre identité et très largement le cinéma français.
Raphaël Baquet, vous avez enquêté sur le personnage, ce sentiment d'impunité, est-ce qu'il l'a encore aujourd'hui, après toutes ces plaintes? En octobre, on sait qu'il sera jugé pour des affaires qui se seraient déroulées en 2021, alors qu'il était déjà mis en examen depuis 2020.
Oui, elles sont récentes, c'est ça qui est frappant. Alors aujourd'hui, tout de même, la carrière de Depardieu est derrière lui. Il n'a plus tourné ces deux dernières années, au moins. Évidemment, le scandale l'a enfin atteint. Il est plus âgé aussi. Donc, et il n'a pas le pouvoir qu'il avait il y a encore quelques années, où le simple fait d'être au générique permettait de monter un film. Ce n'est plus du tout le cas. Donc évidemment, le fait que les tournages ferment les yeux, que les équipes de cinéma ferment les yeux sur son comportement, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il a perdu son pouvoir que les plaintes des femmes sont aujourd'hui entendu.
Je rappelle qu'il a toujours nié, hein, Gérard Depardieu, il l'a dit, jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme, c'est ce qu'il disait en octobre dernier. Est-ce qu'il ne paie pas, quelque part, une époque où le cinéma, ou une partie du cinéma était comme ça ?
Oh non, tout le monde dans le cinéma ne se comportait pas comme ça. Depardieu, c'était vraiment le parrain du cinéma français. Donc son comportement avec les femmes, sa façon aussi de boire à outrance, hein. Il y a beaucoup de témoins de tournage qui nous ont raconté comment très souvent on était obligé de suspendre le tournage parce qu'il était ivre-mort. J'ai pas beaucoup de témoignages d'autres acteurs qui se soient conduits comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul, mais ça veut dire que son grand talent, qui est réel, une forme de génie du cinéma et de la comédie, excusait beaucoup de choses dans son cas. Et que parce qu'on l'admirait et parce qu'il avait du pouvoir, on écartait tout ce qui pouvait poser problème dans son comportement et qui aujourd'hui paraît inadmissible.
C'est fini aujourd'hui pour lui le cinéma, il a 75 ans.
En tout cas en France. On a questionné beaucoup de producteurs, beaucoup de diffuseurs, beaucoup de réalisateurs. Personne ne prendra le risque de le remettre en tête d'affiche pour un projet de cinéma. Donc il n'a plus de proposition. Il peut encore tourner éventuellement en Russie, mais c'est vraiment très difficile de le faire tourner, en tout cas en Europe.
Merci beaucoup Raphaël Baquet, auteur, je le rappelle, avec Samuel Blumenfeld, d'une enquête fouillée sur Gérard Depardieu, une affaire très française, parue il y a quelques semaines chez Albin Michel. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci.
Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL.
Et on va se laisser tenter dans un court instant avec vous, Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Guillaume Aldebert, le chanteur jeunesse aux 850 000 albums vendus, devient le temps d'un nouvel album, Aldebert, elle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça déménage.
Hein. Voici Enfantillage 666, le chiffre du diable. Guillaume Aldebert, tel un sorcier diabolique, tente une expérience inédite, chantée pour les enfants à la sauce métal. J'ai rencontré Guillaume Aldebert à la Philharmonie de Paris, où se tient justement une expo sur ce genre musical si particulier.
Si c'est trop fort, c'est que t'es trop vieux.
RTL.
Les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Tout à l'heure, nous parlerons du 30 avril 1945 et du suicide d'un des plus grands dictateurs de notre histoire, un certain Adolf Hitler. Franchement, il aurait pu faire ça plus tôt.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com. RTL. Laissez-vous tenter, première.
Enfantillage 666, c'est donc le nom de ce nouvel album de Guillaume Aldebert qui vient de sortir. Alors 666, rappelons-le, Laurent Marsic, c'est le nombre de la bête le nombre de la bête dans l'Apocalypse.
Exactement.
Intrusion dans le hard rock metal pour les enfants avec une pléiade d'invités dont certains assez inattendus, hein, d'ailleurs.
Et Aldebert devient donc Aldebert, elle comme le Hellfest, le plus grand festival de métal en France. Guillaume Aldebert raconte être tombé très tôt dans la marmite métal à ses années collège.
C'est le grand frère d'un pote en fait, chez qui trônaient des vinyles de Iron Maiden, AC/DC, Metallica, Halloween et tout ça, qui m'a fait découvrir ce monde mystérieux dans lequel j'ai plongé au moment où j'ai acheté ma première guitare pour le brevet des collèges. En fait, ça m'a ouvert sur plein d'autres choses.
Ma mère me rabâche tout le temps. Quand est-ce que tu vas grandir ? Les musiciens.
Il voulait devenir guitar hero, et guitar hero, il l'est devenu, et le chante ici dans ce nouvel album avec notamment une légende de la guitare, Mathieu Chédid.
Ah !
Je suis
Et donc, comme à chaque fois, Laurent, des invités viennent accompagner Guillaume Aldebert.
Au doux nom de Sepultura, Ultra Vomit, Massisteria, mais aussi Yarol Poupeau, l'humoriste Laura Lone, la famille de Guillaume et ses nouveaux des écrivains.
En fait, j'avais envie d'inviter des écrivains que j'aime beaucoup, qui sont Amélie Nothomb et Nicolas Mathieu. Amélie Nothomb, elle est fan de métal, elle est Wellfest, elle s'exprime en tant qu'adulte sur une chanson sur les éternels conflits depuis la nuit des temps. Et c'était un moment fort pour elle et pour moi, bien sûr.
Nous préférons le gris de la guerre.
Vous pourriez échanger des valeurs.
Nous choisissons de croiser le fer.
Et si vous aimiez l'amour et la chaleur?
Nous cultivons le sens des affaires.
Et si vous appreniez de vos erreurs?
Nous aimons fertiliser les cimetières.
La guerre, l'écologie, les parents, et puis des choses plus personnelles dans cet album, comme le harcèlement scolaire dont a été victime Guillaume Aldebert.
Je trouve que cette chanson, elle se prêtait bien à un arrangement métal, parce que je me mets à la place de la victime, c'est-à-dire un enfant, fille ou garçon, qui subit ce truc.
No more school bullying.
Je me sentais d'en parler parce que j'ai subi deux fois, j'ai subi en CP et puis en CM1 dans une autre école, quand j'ai changé d'école. Et puis c'est aussi peut-être en tant que papa la peur de revoir vivre ça chez ses enfants. Cette chanson, je l'ai proposée à Max Cavalera, qui est le chanteur historique du groupe Sepultura et de plein d'autres groupes. Et lui arrive vraiment à cristalliser en fait cette colère de cet enfant qui se retrouve prisonnier, qui ne peut pas parler, qui est coincé.
Le cartel des cartables, c'est le nom de la chanson. Enfantillage 666, c'est à mettre entre toutes les petites oreilles, les cajamiels, comme disait Francis Zégut. Dans Ongo Tango, l'émission art de RTL, il y a quelques années, notez qu'Aldebert partira en tournée avec son nouvel album le 25 mai. Le Aldebert Tour passera par l'Olympia pour deux dates en avril 2025. Alors ça saute pas aux oreilles là, mais souvent Aldebert, il y a vraiment de vraies mélodies très agréables.
Il y en a, il y en a
très très, très chantant. Merci
en métal.
Merci beaucoup Laurent Marsic.
Laissez-vous tenter. Première.
Un extrait de vos grosses têtes tous les jours 15h30 18h les grosses têtes qui étaient à Montluçon vendredi. Alors un peu d'histoire avec Franck Ferrand.
Parce qu'il y a une histoire à Montluçon, j'imagine Franck Ferrand. C'est quoi l'histoire de Montluçon? Qu'est-ce qui s'est passé d'historique ici?
À Montluçon?
Oui.
Rien.
Il y a plein de choses.
Mais, parce qu'il n'y a jamais eu d'assassinat politique, parce qu'il n'y a jamais eu de mariage princier, parce qu'il n'y a jamais eu de fait hors du commun, on peut dire en même temps que la ville a été une espèce de témoin de tous les siècles. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire de France, vous en avez une trace ici.
C'est pas
mais
ça,
c'est ouais. Une trace discrète.
Mais oui, et puis comme il ne s'est rien passé, quand on vient, ils sont comme des fous.
Oui, c'est ça.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, c'était à Montluçon, vendredi, en partenariat avec le journal La Montagne. Caroline,
oui,
de pluie aujourd'hui.
Oui, encore de la pluie effectivement. Ce matin, le ciel est gris et des pluies éparses continuent d'arroser modérément le Languedoc-Roussillon et ses alentours. Il pleut faiblement de la basse vallée du Rhône à l'Auvergne, au centre, en Champagne, jusqu'à la région parisienne en matinée. Mais dans ces régions, attention, ces averses vont prendre un caractère orageux dans l'après-midi. On attend même des épisodes de grêle en soirée et dans la nuit, entre la Bourgogne et les Ardennes. En Alsace, le temps devrait rester sec et lumineux pour la journée. Elles vont s'enchaîner jusqu'à la fin de la semaine, mais et c'est une nouvelle perturbation qui fera son entrée par la pointe bretonne, apportant cette fois pluie soutenue et vent de sud. Cette perturbation va glisser ensuite sur la façade atlantique en soirée, apportant quelques coups de tonnerre sur la côte aquitaine. Avant que cette perturbation ne fasse son entrée, on aura de très belles éclaircies de la Haute-Normandie au Poitou-Charentes. Les températures ce matin, elles sont très agréables. Il fait 9 degrés à Rennes, qui se lève sous le soleil. Il fait 12 à Biarritz ou à Auxerre, 13 pour Lille ou pour Brest, 14 à Paris, à Strasbourg ou à Montpellier, sous la pluie malheureusement, et déjà 18 degrés pour Marseille ou pour Bastia cet après-midi. Il ne fera plus que 12 degrés sur la pointe bretonne, là où il pleut à nouveau, 16 à Rouen, à Limoges ou à Auxerre, 17 à Paris qui sera sous les orages, 18 pour Dunkerque ou pour Marseille, 20 à Lyon ou à Bayonne. Belle journée en Alsace, on est bien au-dessus des moyennes de saison, il fera 24 à Colmar, et toujours une journée idyllique et estivale en Corse avec 27 degrés.
Merci beaucoup Caroline. Nous sommes le mardi 30 avril. Alors Pascal, sur le groupe Facebook de l'émission, nous apprend que c'est aujourd'hui l'anniversaire officiel du parc Astérix.
Ah.
35 ans aujourd'hui, j'ai pas vérifié, je me fie à ce que dit notre cher Pascal.
C'est l'anniversaire de Zaz aussi aujourd'hui.
Zaz,
ah, oui, elle a 43 ans.
De Zaz.
De l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Il y avait ça aussi de Zaz.
Moi,
oh.
Florian, oh, c'est Florian. Pas possible.
Tiens, c'est l'anniversaire aussi de Jackie, l'animateur de Regret 2.
Voilà,
vu ça, Florian.
Ah non, mais c'est ça.
Je suis sûr que vous êtes tous des enfants de Récré à deux ici autour de la table, non?
Évidemment.
Ah oui.
Jacques, les croissants chauds.
Ouais. Et de Croque Vacances, tout ça.
Ah oui. C'est plus vieux.
La Noiraude et tout.
Ah bon?
Bon, il a 76 ans aujourd'hui. Ça vous rajeunit pas, hein? Il a 76 ans aujourd'hui, Jacques.
Ah non, ça nous met un coup de vieux, là.
La claque. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan et vous, Caroline. On vous entend. Vous êtes en pleine forme, tous. Un point, c'est tout, Alba, ce matin. En Espagne aussi, la vie politique est secouée.
Mais c'est ça, il n'y a pas qu'en France. Mmh. Avec les Espagnols, ça prend parfois des airs de télé-nouvelle, là.
Caroline, que d'eau ces derniers jours.
Oui, quels sont les endroits où il pleut le plus en France? Vous allez voir qu'il y a des surprises. Et puis, où est-ce qu'il pleut le plus dans le monde? Ah ben là aussi, vous serez surpris.
Martial, il n'y a pas que sur RTL que la valise cartonne.
Eh non, je fais mes valises ce matin.
Voyage, voyage.
Bah oui, les ponts de mai arrivent et je me suis intéressé au marché de la bagagerie qui cartonne plus 16 à 17% par an depuis le Covid.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Le roi Charles III doit reprendre ses activités aujourd'hui, hein, depuis l'annonce de son cancer. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi un nom de code effraie toute l'Angleterre depuis qu'on sait que le roi est malade.
A tout à l'heure, très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
À la une de votre journal, pas de téléphone portable avant l'âge de 11 ans.
Et c'est l'une des mesures que préconise la commission écran qui rend son rapport aujourd'hui pour un changement radical, hein, vous l'entendrez, dans nos pratiques. Dans ce journal également, l'A13 va rester fermée au moins jusqu'au 11 mai et c'est un chantier à côté de cette autoroute qui est mise en cause. Mathilde Panot de la France Insoumise qui appelle à manifester ce matin alors qu'elle est convoquée pour apologie du terrorisme. Et puis effectivement, Charles III reprend du service, il va mieux.
RTL Matin.
Le rapport de la commission écran promet des discussions animées à la maison. Les experts mandatés vont rendre au gouvernement une trentaine de propositions, parfois radicales. Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone portable donc avant 11 ans, je vous le disais en titre, et pas de réseaux sociaux sur les smartphones avant l'âge de 15 ans. Les experts notent les effets négatifs sur le sommeil, sur la myopie, sur le risque dépressif également quand un jeune est déjà en situation de fragilité. RTL a voulu se rendre dans ce lycée de Seine-Saint-Denis, le lycée Feder à Épinay-sur-Seine. Deux profs de sport recensent depuis 3 ans le temps passé par leurs élèves de seconde sur les écrans du téléphone chaque semaine. Reportage de Nerissa Emani.
Oui, comme chaque semaine avant le cours de sport, ces élèves de seconde doivent indiquer à leur prof le nombre d'heures passées quotidiennement sur leur téléphone avant de le glisser dans une boîte.
3h45.
C'est bien où il se lève.
6h28.
Tu augmentes tes relâchements.
Au-delà de 4 heures par jour, l'élève doit passer 1 à 3 heures de plus au lycée pour réviser ou pour faire du sport.
C'est vraiment beaucoup, beaucoup.
Bonko et Walid passent 8 heures par jour sur leur téléphone.
Des fois, je suis sûrement sur TikTok, tous les réseaux sociaux en fait. Genre, c'est vraiment addictif.
Les vidéos, ils défilent. Le temps, il passe vite sur TikTok.
D'autres ont réussi à gérer leur addiction depuis la rentrée. Nour a diminué de moitié son temps d'écran.
Avant, je restais sur mon téléphone jusqu'à 1h du matin. Et là, je dors un peu plus tôt, vers 22h. Je passe plus de temps avec ma famille et tout.
Erwan Chapelière est le prof à l'origine de cette idée. Cette année, il a remarqué une corrélation entre le temps d'écran et les résultats scolaires.
Les élèves qui ont le moins de temps d'écran sont ceux qui ont eu les félicitations. Et les élèves qui ont le plus de temps d'écran sont ceux qui sont soit en difficulté scolaire ou soit... Donc globalement, décrochage scolaire.
Alors pour sensibiliser au danger des écrans, Erwan fait intervenir au lycée des pédopsychiatres et des neurologues et les parents sont bien sûr conviés.
Merci Nerissa et Mani. Un dispositif qui fonctionne puisque le temps d'écran moyen de cette classe est passé de 7 heures par jour au premier trimestre à 5 heures au deuxième trimestre de cette année. Et puis notez que les coprésidents de cette commission écran seront les invités tout à l'heure d'Amandine Bégaud à 7h40. À Châteauroux, l'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre de Matisse, du même âge que lui, a été mise en examen et placée en détention provisoire. Sa mère est également mise en examen, soupçonnée elle d'avoir giflé la victime quand il était déjà à terre. Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain. Deux femmes l'accusent d'agression sexuelle sur le même tournage en 2021. L'acteur est resté une dizaine d'heures en garde à vue hier. Il n'a pas fait de commentaire à l'issue, mais mais il s'est défendu en octobre dernier dans le Figaro de n'avoir jamais abusé d'aucune femme.
La galère n'est pas finie pour les usagers de l'autoroute A13 à l'ouest de Paris.
Oui, pardon, elle va rester fermée au moins jusqu'au 11 mai avant une éventuelle réouverture dans le sens province Paris dans un premier temps. Ce sont 100 000 automobilistes qui sont pénalisés tous les jours et qui ont le temps de ruminer dans les bouchons parce qu'ils ont appris qu'un chantier juste à côté était mis en cause, Joséphine Tazdaït.
Oui, lorsque vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence de la 13, juste à l'entrée du tunnel de Saint-Cloud, vous n'avez qu'à pencher la tête et vous verrez un immense gouffre de terre. C'est Denis, un automobiliste, qui en parle le mieux.
Le chantier qui est de l'autre côté, oui, on en vient. C'est vertigineux.
Et pour lui, vu l'emplacement, ce n'est pas étonnant que le chantier soit mis en cause.
Mais en tout cas, ça se voit que c'est quand même un petit peu fragile, ouais, comme endroit. Ouais. Bah, sur une colline, surtout, la pente est quand même sévère, quoi.
Une fragilité des sols, pointée du doigt, justement, par le canard enchaîné. Alors tout ce bazar pour un parking exigé par le président du département des Hauts-de-Seine et qui a eu pour effet de déplacer 6 cm du mur de soutènement, forcément, ça agace les riverains comme Carla, qui en paye les conséquences.
Faut peut-être arrêter un peu les conneries, quoi. C'est juste aberrant. Je trouve que c'est extrêmement handicapant, juste pour travailler, en fait. Je mets beaucoup plus de temps à arriver le matin.
Dans un communiqué, la préfecture des Hauts-de-Seine annonce que des travaux de consolidation vont être réalisés sur le chantier dans les prochains jours.
Un reportage de Joséphine Tazdaït pour RTL.
La France Insoumise appelle à manifester ce matin devant les locaux de la police judiciaire parisienne.
Pour défendre la liberté d'expression, deux figures du mouvement, Mathilde Panot et Rima Hassan, sont en effet convoquées pour apologie du terrorisme, Thomas Proutot.
Oui, la candidate de LFI aux européennes, puis la députée insoumise, vont être toutes les deux confrontées à leurs expressions au public depuis le 7 octobre. Rima Hassan, notamment, a plusieurs déclarations sur Gaza. Et Mathilde Panot, au communiqué de son groupe parlementaire publié le jour du massacre commis par le Hamas en Israël. Le texte évoquait une offensive armée des forces palestiniennes sans employer le mot terrorisme. Les enquêteurs ont pour mission de déterminer si le délit d'apologie du terrorisme est constitué. Ils vont donc demander aux deux membres de LFI si elle présentait l'attaque sur un jour favorable, l'une des conditions du délit d'apologie. L'avocat de Rima Hassan martèle qu'elle n'a jamais présenté comme légitime le massacre du 7 octobre et dénonce une répression inédite des opinions politiques. Mathilde Panot brocarde une convocation pour des motifs fallacieux. À l'issue de leur audition tout à l'heure, les deux femmes politiques pourront soit repartir libres, soit être convoquées en vue de suite judiciaire.
Merci Thomas Proutot. La France Insoumise qui gagne un point ce matin, 9% d'intention de vote dans notre 8e vague. Toluna Harris Interactive pour RTL et Challenge, sur les européennes évidemment. La liste RN reste nettement en tête à 31%, devant la liste majorité présidentielle à 16% et la liste PS Place Publique à 13%. La campagne des européennes, elle se passe sur RTL. Notez-le dimanche, le premier débat qui réunit les 7 têtes de liste, y compris Jordan Bardella. Ce sera donc sur RTL lors d'un grand jury exceptionnel, en direct, sur RTL Paris Première avec Le Figaro, M6 et la chaîne parlementaire.
Le Parti communiste, lui, a bien du mal à se faire entendre.
À 2% en l'occurrence seulement dans les sondages. Leur tête de liste s'appelle Léon Desfontaines. Il a 28 ans, il était hier soir en réunion publique en banlieue parisienne. Reportage d'Arthur Bellier.
Avant de rentrer dans la salle Jean Jaurès où l'attend plus de 200 militants, Léon Desfontaines veut se démarquer de ses concurrents de gauche et de leurs sujets de débat.
L'élection européenne n'est pas une campagne autour de la Palestine, autour de l'Ukraine ou autour du jardinage comme le proposent les autres listes de gauche. Si la gauche n'est pas capable de parler de la question sociale, alors nous n'arriverons pas à aller chercher l'électorat populaire, on n'ira pas chercher les travailleurs.
Industrie, services publics, logement. Dans son discours, Léon Desfontaines peste contre une Europe déconnectée du quotidien des travailleurs.
Ils savent pas ce que c'est que arriver à la fin du mois et devoir enlever des choses du caddie tellement il y a une inflation galopante. Cette réalité-là, les technocrates bruxellois, ils ne la connaissent pas. Il est temps de reprendre la main sur nos vies, sur cette Europe du capital qui vient mettre en concurrence les travailleurs entre eux.
À la fin du discours, son ton assuré a su séduire la plupart des militants malgré son jeune âge.
Je découvre un jeune homme convaincu, convaincant.
Je ne crois pas, moi, à ces candidats où on a fait du jeunisme. Il faut quand même, pour défendre des idées, défendre un pays, il faut avoir un petit peu d'expérience.
Ça donne vraiment la pêche. On sent que c'est combatif, c'est jeune, et moi ça me donne de l'espoir.
Sous la barre fatidique des 5% dans tous les sondages, les communistes espèrent pourtant faire leur retour au Parlement européen le 9 juin.
Merci beaucoup Arthur Bellier. Le casse-tête des limitations de vitesse en France. RTL a demandé à l'application Coyote, qui fait bip bip quand il y a un radar et qui s'appuie sur ses 5 millions de clients, de faire une étude donc complète et donc en moyenne, sur 100 km de route nationale, les limitations de vitesse changent 17 fois. C'est parfois beaucoup plus même, vous l'entendrez avec l'enquête complète de Christophe Christophe Bourreau tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement. Et puis l'actualité à l'étranger, on attend maintenant la réponse du Hamas à la dernière proposition de trêve élaborée en Égypte en échange notamment de libération d'otages. La délégation du Hamas a quitté le Caire hier soir.
Charles III, lui, reprend du service.
Oui, trois mois après avoir annoncé qu'il souffrait d'un cancer et qu'il devait donc renoncer à ses engagements en public, il a le feu vert des médecins pour reprendre une activité officielle plus soutenue. Et il va d'ailleurs visiter aujourd'hui, avec Camilla, un centre de lutte contre le cancer. Marie Billon est à Londres pour RTL.
Le roi n'est pas encore sorti de l'auberge, mais il a le droit de sortir de son palais. Ses médecins sont contents de ses progrès dans sa lutte contre la maladie. Charles III va donc faire sa première apparition en public aujourd'hui, aux côtés de son épouse, la reine Camilla. Il va rencontrer les malades, leurs familles et les soignants dans un centre de traitement contre le cancer. Un choix évident pour le monarque qui continue à être soigné pour un cancer dont il n'a pas révélé la nature exacte. Ce n'est d'ailleurs pas le signe d'un retour à la normalité pour Charles III. Ses docteurs ont accordé à leurs patients mordu du travail, d'ajouter quelques engagements à son agenda. Mais le roi de 75 ans doit se ménager et rester prudent. À une semaine du premier anniversaire de son couronnement, le monarque voulait conclure ses noces de coton avec ses sujets en suivant les conseils de sa maman, la reine Elisabeth II. Il faut qu'on me voie pour qu'on me croie.
Merci Marie Billon à Londres pour RTL. Le football et la première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir, 21h. Le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid. Et demain, le PSG est à Dortmund. Ce sera à vivre sur RTL dès 20h avec Eric Silvestro, RTL Foot spécial Ligue des Champions. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot, évidemment, seront aux commentaires.
Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Vous en parliez dans le journal, un jeune de 15 ans et sa mère ont été mis en examen hier soir après la mort de Mathis, 15 ans, samedi à Châteauroux. Ces violences juvéniles se multiplient ces dernières semaines et ça vous fait beaucoup réagir sur le répondeur RTL. Écoutez ces messages de Hervé et Marie.
Il faudrait que le gamin y paye, parce que bon, quand on a 15 ans et on tue quelqu'un avec un couteau, c'est pas logique, quoi. On a autre chose à faire à 15 ans. À mon époque, non, c'était des petites conneries, mais pas à ce point-là, quoi. J'ai jamais tué personne. C'est aberrant, quoi.
Je trouve que ces jeunes mineurs devraient être condamnés comme des adultes parce que c'est toutes les semaines qu'il y a ce genre de choses. Et je trouve ça lamentable, ce qui est devenu la France. Ils s'en foutent, ils ont 15 ans, ils savent qu'ils ne seront pas condamnés. Les parents ne les surveillent pas. Moi, je serais beaucoup plus virulente que ça.
Le répondeur du 3210 pour vos messages ou via l'application RTL et sur le site rtl.fr. Vous allez dans Intervenez. Prochain rendez-vous, bien sûr, pour vous exprimer en direct sur l'info. C'est à 13h dans les auditeurs ont la parole. Notre question du jour ce matin, est-ce que vous vous y retrouvez dans les limitations de vitesse sur les routes? On le disait, en moyenne, sur 100 km de route nationale et départementale, les limitations changent 17 fois. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous vous y retrouvez? Vous dites non à 87%. Beaucoup de messages ce matin, Caroline.
Ça va dans ce sens. Il y a Louis qui nous dit, nous, on s'y retrouve pas du tout, mais l'État, oui. Jean-Pierre qui partage cette idée, à son avis, c'est pour mettre des amendes. Michel nous dit qu'avec tous ces changements de vitesse intempestifs, il est beaucoup plus concentré sur les panneaux et sur le compteur que sur la route. Il y a Thierry qui nous dit que c'est un bazar sans nom entre Niort et Nantes. Il y a jusqu'à 4 à 5 changements en 3 km. Et puis il y a Damino. Alors Damino, lui, va à contre-courant. Hein. Il ne voit pas où est le problème. Il ajoute que si certains sont dépassés par 4 petits panneaux, il s'agirait d'arrêter la conduite. Voilà. Donc lui, il est dans l'autre équipe.
Et c'est l'enquête, en tout cas, de Christophe Bourreau, RTL Événement, à retrouver à 7h15. Dans votre tablée du petit matin, là, dans quelques instants, cette comédie politique en Espagne.
Olé.
Olé, avec Alba, 6h42.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Jérôme Florin.
RTL Matin.
À suivre ce matin sur RTL à Châteauroux, la dignité d'un père après la mort de son fils Mathis, 15 ans. Sur RTL, Christophe Marchais, son papa, appelle au respect de mémoire de son fils poignardé ce week-end. Il refuse toute récupération politique. Je rappelle que le meurtrier présumé a passé la nuit en prison. C'est un adolescent de 15 ans qui a reconnu avoir poignardé le jeune adolescent. Il a raconté lors de sa garde à vue que c'était après avoir reçu un coup de poing et sous le coup de la colère. Sa mère aussi est poursuivie pour être intervenue. Elle a giflé la victime qui était à terre. Christophe Marchais, le père de Mathis.
On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses.
Témoignage de ce père à retrouver ce matin sur RTL.
RTL Matin.
Merci beaucoup de commencer la journée avec nous. C'est votre tablé du petit matin. Il y a Caroline Chimo ce matin, il y a Martial You, Florian Gazan et vous, Alba Ventura. Alors Alba, en Espagne, pendant 5 jours, le Premier ministre a maintenu le suspense autour de sa démission. On y a cru, hein ?
Ah oui, mais alors quel numéro de claquette. Pedro Sanchez a vraiment le sens du happening. Alors effectivement, pendant 5 jours, il s'est enfermé chez lui après la mise en cause de sa femme Begoña Gomez, poursuivie pour trafic d'influence à la suite d'une plainte d'une association liée à l'extrême droite. Alors une plainte qui ne semblerait pas fondée, mais qui a entraîné donc cette crise politique. Un épisode politico-judiciaire qui a conduit Pedro Sanchez à se demander dans une lettre adressée à son peuple s'il avait encore à cœur de faire de la politique. Bon, comme ça fait 35 ans qu'il est dans la politique, personne n'aurait dû en douter. Mais pendant 5 jours, écoutez, il a mis en émoi ses amis et ses adversaires et mis en ébullition les journalistes politiques espagnols. Pendant 5 jours, toutes les rumeurs ont circulé. Il était question donc de son remplacement, de nouvelles élections, ou bien d'un vote défavorable au Parlement. Et l'idée de son départ s'est quasiment imposée. Les ministres socialistes étaient complètement désemparés, n'ayant aucune solution de rechange. Le monde semblait s'écrouler pour la gauche espagnole, jusqu'à hier, lorsqu'il a pris la parole sur les coups de 11h.
J'ai décidé de suivre. Suivre avec plus de force, si cabe, au front de la présidence du gouvernement d'Espagne.
Voilà, j'ai décidé de rester avec plus de force encore si cela est possible. Et il ajoute, Begoña et moi savons qu'ils ne vont pas s'arrêter en chemin, mais nous sommes prêts à y faire face. On se serait cru dans une telenovela, amour, gloire, politique et beauté sans castagnette. Hein. Alors pour les journalistes espagnols, ce n'était qu'un énième coup de théâtre dont Sanchez a le secret. Comment on dit déjà, Jérôme ? Quand on se regarde, on se désole. Ouais.
Quand on se compare, on se console.
On se console, c'est voilà, ça. C'est ça.
Il y avait un édito d'El Mondo ce week-end qui avait titré Sanchez, le roi du drame.
Le roi du drame, le roi des coups de théâtre.
Tout est dit. Un point, c'est tout. Merci beaucoup, Alba Ventura. 6h46, on vous le dit depuis le début de l'émission, c'est encore une journée pluvieuse sur une bonne partie du pays, de la basse vallée du Rhône à l'Auvergne, le centre, la Champagne, la région parisienne, tout le monde ou presque va se faire saucer. Le mois de mars, Caroline, avait déjà été bien arrosé. Visiblement, le mois d'avril veut lui aussi battre des records de pluviométrie.
Oui, alors pour revenir sur le mois de mars, rapidement, les pluies ont été très abondantes, notamment entre les Cévennes et la région PACA, mais même à l'échelle nationale, c'est le 5e mois de mars le plus arrosé depuis les mesures en 58. Seule l'Aude et les Pyrénées-Orientales ont fini ce mois de mars, en déficit de pluviométrie.
Alors, est-ce qu'avec toute la pluie tombée ce week-end, on a encore battu des records ?
Alors, à Lyon, oui, ils sont tombés 98 mm en moins de 24 heures. Pour vous donner une idée, à Lyon, il tombe en moyenne 70 mm en un mois.
Sur le mois ?
Oui, dimanche est donc devenue la journée la plus arrosée jamais enregistrée. Autre record battu ce lundi, et celui-ci était très attendu, Perpignan et la plaine du Roussillon enregistrent actuellement leur plus gros épisode de précipitation depuis plus de 2 ans. Les 32 mm relevés ce dimanche à Perpignan représentent la moitié des précipitations d'un mois d'avril normal sur le secteur. Et 32 mm, c'est plus que tout ce qui est tombé sur les mois de novembre, décembre et janvier réunis. Il en est tombé entre 30 et 40 mm à nouveau hier. C'est donc une vraie bonne nouvelle pour la région.
Alors, sortie de cet épisode et de tous ces records, est-ce qu'on connaît la ville de France où il pleut le plus ?
Alors, une étude récente avait estimé le nombre de jours moyens de pluie par mois dans chaque ville de France. Une étude menée sur la période 2009-2022, et Lyon était déjà à la 3e marche du podium avec plus de 7 jours de pluie par mois. Mais c'est Grenoble, la ville française la plus pluvieuse, avec en moyenne 9 jours de pluie par mois, suivi de très près par Annecy. Et ça va faire taire pas mal de mauvaises langues qui disent qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Quimper, est la première ville bretonne du classement. Elle n'est qu'à la 16e place avec un peu plus de 6 jours de pluie par mois.
Et on sait où se trouve l'endroit le plus pluvieux au monde.
Oui, alors ne réservez pas vos vacances au soleil à Maouisan en Inde. Oui, là il pleut.
Je prévu d'y aller.
Désolé. Là il pleut en moyenne plus de 11 800 mm d'eau par an. Ça représente 32 litres d'eau qui se déversent tous les jours pour chaque mètre carré.
Ah oui.
C'est situé sur le flanc de l'Himalaya. La ville voit se déverser en fait toute l'eau qui provient du golfe du Bengale et qui vient buter sur la chaîne de montagne. Pour finir de vous convaincre, à Biarritz, qui a la réputation d'être une ville pluvieuse, il ne tombe que 1500 mm d'eau par an. On est loin des 11 800, vous imaginez ?
Merci beaucoup, Caroline.
RTL, vivre ensemble. Toute l'actu économique avec Préfonds, retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent depuis 60 ans.
L'écho à Nio avec vous, Martial Liu. Donc, on va entamer la série des ponts de mai. On sait qu'on n'ira pas à Mahisingram, en Inde, où il pleut énormément. Bon, c'est l'occasion, Martial, de s'intéresser sur un secteur qui décolle depuis le Covid. C'est celui des valises. En hausse de 17% l'an dernier.
Et oui, grâce à l'envolée du tourisme dans le monde, depuis la fin de la pandémie, l'aérien a encore décollé de 37% sur un an en 2023. On a donc rattrapé grosso modo le niveau d'avant Covid. La croisière s'amuse et pour cause, plus 7% aussi l'an dernier. 32 millions de passagers en 2023, sans doute 40 millions d'ici 2027. Donc on peut encore parler un petit peu de lutte contre le surtourisme. On n'a pas fini.
Mais pour tout ça, il faut des valises.
Eh bien oui. Et on parle d'un marché de 16 milliards dans le monde. Avec un phénomène récent, c'est une montée en gamme des achats. D'abord, il y a le secteur du luxe qui a redécouvert bagages, sacs, malles de voyage. LVMH a fait jouer Messi et Ronaldo aux échecs sur un de ses produits. Hermès publie de bons chiffres grâce à la maroquinerie, alors que le secteur du luxe se replie un peu, notamment à cause du ralentissement économique de la Chine.
C'est pas ça qu'on achète le plus.
Alors non, bien sûr, puisque la valise cabine Louis Vuitton, c'est entre 2 800 et 12 000 euros. Mais on retrouve des marqueurs du luxe dans les achats de monsieur et madame tout le monde, même si monsieur et madame tout le monde ne prennent pas l'avion, je suis bien au courant. Donc parmi ces marqueurs du luxe, d'abord le panier moyen, il est plus élevé qu'avant, entre 250 et 300 euros en moyenne selon Alexandra Lecref, la présidente de la Fédération Maroquinerie et Sellerie Française. On choisit, deuxième marqueur, la qualité. On met plus cher au départ pour que la valise soit plus solide et qu'on puisse la réparer. C'est donc un achat durable. Et puis on choisit le design. Fini les gris noirs sur les tapis roulants, cette année tendance au vert, kaki, pistache ou citron vert flashy. Donc il y a une signature. Et puis enfin, on signe des licences avec des marques. C'est ce que fait Delsey, qui fabrique des collections pour Peugeot, Jeep ou Benetton. Kawai, qui est revenu à la mode, redevenu tendance, avait aussi sa ligne de valise. C'est comme pour les parfums.
Donc on se sert plus souvent de sa valise.
Absolument, puisque les bagages sont plus petits, plus souples, tout simplement parce que ce sont des formats low cost, under seat, comme on dit, pour se glisser sous le siège, parce qu'on vole moins loin, mais plus souvent grâce aux compagnies à bas prix.
Et alors, qui domine le marché ?
Samsonite, avec 3 milliards de chiffre d'affaires, et puis une Française, Delsey, loin derrière, avec 250 millions d'euros de vente.
Donc Delsey, c'est une marque française ?
Alors oui, ça peut surprendre, effectivement, parce que ça sonne anglo-saxon. Oui. Delsey, l'entreprise, elle est née en 1946. À l'origine, les établissements de la Haye fabriquaient des étuis d'appareils photo, des valises pour les machines à écrire et des tours de disques. Et puis en 1946, de la Haye, Dell, s'associe aux Français Sénave. Ce sont des frères. Et donc, on a Delsey.
Et les valises sont fabriquées en France ?
Alors non, malheureusement, puisque 95% de la production globale de valises vient d'Asie aujourd'hui. Delsey n'y échappe pas. En revanche, Samsonite, entreprise américaine, a une production en Belgique et notamment les pièces détachées pour la réparation.
Votre plus, Martial, Arnaud Lagardère, mis en examen.
Pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, il est soupçonné d'avoir fait financer son train de vie par les fonds de certaines de ses sociétés.
Et votre note, 20 à Amazon.
20 milliards investis en France depuis 2010, 2000 CDI d'ici la fin de l'année. En tout, Amazon emploie 24 000 personnes dans le pays. Son directeur France, d'ailleurs, Frédéric Duval, sera notre invité à 8h20.
Merci beaucoup, Martial Liu. 6h52, les pourquoi de l'info. Florian Gazan, on le disait dans le journal tout à l'heure. Aujourd'hui, le roi Charles III, en retrait depuis février, depuis l'annonce de son cancer, va reprendre ses engagements publics en visitant ce n'est sans doute pas un hasard, un centre de traitement du cancer.
Oui.
Et vous allez nous expliquer pourquoi, depuis l'annonce de la maladie de Charles, un nom de code effraie toute l'Angleterre.
Oui, Jérôme, et ce nom de code, c'est Menai Bridge, un pont suspendu du début du 19e siècle qui relie le nord du Pays de Galles à l'île d'Anglesey. Et c'est le nom de code choisi pour l'opération qui s'enclenchera si le roi Charles III venait à décéder de l'annonce de sa mort à ses funérailles. Et si on a choisi le nom de ce pont, bah, c'est parce que avant d'être roi, Charles était prince de Galles.
Voilà. Donc, ce nom de code lui a été attribué avant qu'il soit roi.
Oui, Caroline, on l'avait découvert en 1988 lorsqu'on avait cru que le prince Charles, parti skier en Suisse, était mort dans une avalanche. Car c'est une tradition, tout ce qui touche à la famille royale britannique a un nom de code. Par exemple, le couronnement de Charles III en mai dernier, c'était l'opération Golden Horn. Ça fait très James Bond, je sais. Golden Horn.
Et celui pour le décès de la reine d'Angleterre, de mémoire, c'était un autre pont. Oui. Le London Bridge.
C'est ça, qui en dans le cadre de l'opération Lion. Ça, c'est le plan global pour la mort de tout membre de la famille royale, par exemple s'il arrivait quelque chose à Kate Middleton. Mais après, dans le détail, tout donne lieu à un nom de code. Par exemple, après la mort de la reine, on a déclenché l'opération Licorne qui couvrait les cérémonies à Édimbourg et le retour du cercueil à Londres, tout en préparant déjà l'opération Springtime.
Ça fait beaucoup d'opérations.
C'était quoi ça ?
Alors ça, c'était le nom de code du premier voyage du roi Charles III dans les autres pays de Grande-Bretagne. Springtime, c'était sa première opération bien avant celle de la prostate. Mais à l'étranger aussi, on est très nom de code pour ses dirigeants, y compris chez nous en France. Car depuis François Mitterrand, le président a un nom de code pour les services secrets, toujours le même, Vega. Donc Vega actuellement, c'est Emmanuel Macron. Et Gabriel Attal, c'est Mérové, nom de code du Premier ministre, qui rencontreront peut-être bientôt Celtic et Capri.
C'est qui ça? Franchement, c'est hyper.
Alors ça, c'est aux États-Unis, ouais. Ce sont les noms de code de Joe Biden, Celtic, et de son épouse Jill, Capri. Là-bas, on choisit soi-même son nom de code, petit luxe, avec une obligation pour toute la famille du président, ça doit commencer par la même lettre. Tiens, on va voir si à partir du nom de code, vous retrouvez les couples présidentiels.
Oula.
Si je vous dis Mogul et Muse, Mogul, ça veut dire magna, hein.
Magna, ça doit être Trump.
Voilà, Donald Trump et Melania Trump. Renegade et Renaissance.
Obama.
Voilà, c'était Obama et Michel Obama. Il est fort. Eagle et Evergreen.
Bill, Hillary Clinton. Exactement. C'est parce que c'est marqué sur le papier.
Ouais, mais si vous trichez fort, Jérôme.
Même certaines stars invitées à rencontrer le président ont eu leur nom de code. Voilà pourquoi un jour, Napoléon est venu à la Maison Blanche. Napoléon, en toute modestie, c'était Frank Sinatra.
Ah, bon, c'était de Gaulle.
Merci beaucoup, Florian Gazan. Merci à toute la table. Et Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
Oui, est-ce que la gauche Glucksmann, hein, Raphaël Glucksmann, vous savez, le candidat PS Place Publique, peut faire un coup le 9 juin? Le 9 juin, je le rappelle, c'est les
élections.
Bravo.
Bonjour Louis Bodin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et aujourd'hui c'est toujours la
pluie.
Hey. Voilà.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble. Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback Itens 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bon, bah si je veux pouvoir réparer ma voiture, adieu petit week-end, restons et spa. Voilà.
Blondine, profitez de la vie et réparez votre voiture. Pendant les Oscars Odez, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits.
Merci Oscaro.
Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
RTL Matin.
Louis, je le disais, encore de la pluie aujourd'hui, hein, sur, vraiment sur la partie milieu du pays.
Oui, c'est ça, hein, c'est là où les précipitations seront les plus fréquentes, ou elles le sont déjà, hein, d'ailleurs ça circule en ce moment de l'Occitanie vers le Massif Central, c'est en train d'arriver sur l'île de France, puis ça va se prolonger vers le Nord-Pas-de-Calais, vers la frontière belge. C'est sur cet axe, hein, où les pluies seront les plus fréquentes, une bonne partie de la journée, toujours beaucoup de pluie sur les Pyrénées-Orientales, où on a eu quand même jusqu'à 60 mm de pluie, hein, c'est quasiment l'équivalent d'un mois. Enfin, ça faisait 2 ans que l'on était en déficit chronique, hein, tous les mois il manquait de la pluie, donc là, bah voilà, ça ne va pas régler le problème évidemment, mais c'est toujours quand même une bonne nouvelle. Des précipitations que nous retrouverons également dans les autres régions. Alors plus on ira vers l'ouest, plus on ira vers l'est, plus ces précipitations resteront limitées, avec même de très belles éclaircies sur l'Aquitaine, sur la plaine d'Alsace ou encore du côté de la Corse, où là il ne devrait pas pleuvoir du tout. Le vent atteindra 60 km/h près de la Méditerranée. Et ce matin, j'ai même trouvé un peu de brouillard dedans, à Belfort ou encore à Annecy. On a parfois moins de 200 mètres de visibilité. Alors, j'aurais pu en avoir cet après-midi. Côté température, pas de gelée ce matin en pleine. On est souvent entre 5 et 10 degrés. C'est pas toujours très chaud. Et cet après-midi, là, en revanche, on sera dans des valeurs de saison entre 17 et 22 degrés, quelle que soit la région. C'est très homogène. Avec ces passages nuageux, ça équilibre les choses. Il n'y a qu'en pleine d'Alsace où là, on devrait avoir quand même de 24 à 26 degrés encore, puisque là, on restera un peu à l'écart de ce temps dégradé.
Ça va durer encore longtemps, ce
et automne. Oui, ça va durer encore un peu. Demain, de la pluie. Après-demain, de la pluie. On va comme ça jusqu'au moins au week-end. Alors, peut-être un peu moins d'averses quand même dans la journée de dimanche. Et il faudra attendre la semaine prochaine pour voir éventuellement une véritable amélioration.
La semaine prochaine, éventuellement.
Aïe.
On a compris. Oui, ne casse pas. Merci beaucoup. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Et voilà, on arrive avec toutes ces belles nouvelles pour vous.
C'est très agréable ce temps. Bon,
ça ne peut pas être pire.
Oui, exactement.
Hein, ça ne peut pas être pire. Au moins, on reste au bureau ensemble, on travaille.
C'est ça.
Il n'y a que ça à faire, finalement.
Oui, c'est pas désagréable. On vous dit à demain matin.
À demain.
Avec toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous, bonjour Amandine.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ils ont notamment auditionné 150 enfants, 150 mômes. Vous recevez ce matin, Amandine, en exclusivité, les deux coprésidents de la fameuse commission écran.
Oui, vous savez, c'est cette commission lancée par Emmanuel Macron au mois de janvier pour tenter d'encadrer l'utilisation des écrans et mieux protéger nos enfants. Après 3 mois de concertation, ils rendent leur rapport cet après-midi et nous le dévoilent donc ce matin sur RTL. 29 propositions ultra concrètes. Pas d'écran avant 6 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 9 ans et 8 mois. Et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. C'est clairement une vraie révolution. Je vous explique tout ça à 7h40.
Nous sommes le mardi 30 avril 2024. 30-04-24. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h.
7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud.